répondre brièvement aux questions qui sont là. D'abord sur repos et sabbat. En fait, si vous regardez bien le récit, l'introduction du sabbat dans le récit de création, ça fonctionne moins sous la thématique du repos que sur la cessation de travail. Or, c'est très intéressant parce que Dieu arrêta le travail qu'il fit le septième jour, et c'est la place que Dieu laisse à l'humain pour accomplir la création. Donc, le Shabbat est moins... c'est nous qui faisons du Shabbat un jour de repos. Mais le Shabbat, c'est le jour en lequel Dieu fait sa place entière à l'œuvre de la création. Pour faire mémoire de l'œuvre du Créateur, mais Dieu limite sa toute-puissance le jour du Shabbat. Et il faut comprendre le Shabbat tel qu'il apparaît à la fin du récit de création, avec la loi que Dieu vient de donner à l'humain juste avant. Il dit à l'humain, à la dame, qu'il va tout dominer, et en même temps il dira, tu mangeras l'herbe mûrissante, et l'animal mangera l'herbe verte. C'est-à-dire que la manière de dominer, c'est de, comme le dit mon ami André Wénin, que beaucoup connaissent, c'est de maîtriser sa propre puissance. C'est de s'auto-limiter dans sa puissance. Et le Shabbat fonctionne, me semble-t-il, comme l'auto-Dieu qui s'auto-limite d'une certaine manière. Il fait kénose, permettant au monde d'exister. Il n'occupe pas tout l'espace du temps. Il permet à l'homme d'exister dans la création. Et c'est en quoi le Shabbat est remarquable. Puisque le repos, c'est Dieu qui permet à l'homme d'exister et qui montre que l'homme ne se, que l'œuvre de création, elle se poursuit maintenant dans l'histoire humaine. Je ne sais pas comment toi tu vois les choses, mais c'est comme ça que je lis en tout cas le Shabbat. Il y a Hugel Moltmann qui a une très belle parole, qui est un théologien. Moltmann, c'est pas facile à lire, mais les plus belles choses sur le Shabbat, c'est dans le traité écologique de la création qu'a fait Hugel Moltmann, et c'est remarquable. Dieu dans la création, il y a un passage admirable sur le Shabbat, comme ce temps que Dieu laisse à l'humain pour qu'il s'accomplisse lui-même. Donc, vous voyez, c'est plus que le repos. Ce qui n'empêche pas qu'on peut se reposer le jour du Shabbat. Ensuite, la question sacerdoce. Alors, il faut bien entendre ce qu'on appelle l'écriture sacerdotale. L'école sacerdotale, contrairement à ce qu'on pense souvent, est beaucoup plus ouverte et universalisante que l'école deutéronomiste. Puisque l'écriture deutéronomiste, elle limite finalement l'élection au seul Israël. Et c'est Dieu qui a choisi Israël comme son élu. Or, l'école sacerdotale commence par la création, non pas du juif, mais de l'humain, de l'Adam, de l'Adam. Et donc, quelque part, vous voyez bien qu'il y a ici une ouverture assez universelle. Et surtout, l'école sacerdotale montre que la différence majeure entre Israël et le reste du monde, c'est que Israël est détenteur du nom divin. Par Moïse, il a reçu le nom divin, mais Israël ne capte pas seul l'élection et les promesses. Puisqu'il y a manière de connaître Dieu dans l'alliance noachique, il y a manière de connaître Dieu dans l'alliance abrahamique, et bien sûr, l'accomplissement, c'est à travers la Torah mosaïque. Mais Dieu se révèle à Noé, et par Noé, à l'ensemble de l'humanité, les lois noachiques, à Abraham, tous les clans issus d'Abraham, et à Moïse, à Israël. Et donc, quelque part, il y a une articulation de trois alliances. Celle avec Noé qui concerne l'ensemble des nations, celle avec Abraham qui concerne l'ensemble des fils issus d'Abraham, et celle avec Moïse qui est le propre d'Israël. Donc ce qui distingue Israël, ce n'est pas d'être l'élu, mais c'est d'être détenteur du nom divin et qui pourtant il est imprononçable. C'est Adonai, le Seigneur. Donc je pense qu'effectivement, il ne faut pas faire de contresens sur l'école sacerdotale. Et je vous renvoie à un très très beau livre, très simple à lire, car c'est un interview, de mon ami Thomas Romer, La Bible, quelles histoires ! C'est remarquable, dans le dernier chapitre, où il montre très bien en quoi l'école sacerdotale élargit les perspectives par rapport au Deutéronome. Très très beau livre, paru chez Bayard. Vraiment, c'est à lire, hein. En plus, ça se lit facilement. Moi, j'ai eu un plaisir fou à lire ça, et j'ai remercié Thomas d'avoir écrit. C'est le livre que j'aurais aimé écrire, mais il me l'a piqué. Ensuite, prenons la question du messianisme. C'est très compliqué comme question. Pourquoi ? Parce que nous sommes chrétiens. Et que comme chrétiens, on veut absolument que le messianisme soit important. Mais il est important pour nous. Mais il n'était pas, autant que cela pour le monde juif. La Torah est importante pour le monde juif. Il y a différentes formes de messianisme dans le judaïsme. Mais en même temps, c'est vrai que le messianisme ne prend une importance considérable que dans la foi chrétienne, puisqu'on identifie Jésus au Messie. Mais le monde juif d'aujourd'hui vit très bien sans Messie. Ils ont la Torah. Et la Torah, l'étude de la Torah, est pour eux messianisante. À Qumran, dans le désert, on est communauté messianique en étudiant la Torah. Et bien que le messianisme, incarné dans une figure de l'histoire, qui plus est fils de Dieu pour les chrétiens, est surtout une question chrétienne. Et souvent, on va projeter sur nos frères juifs des problématiques qui sont celles du christianisme. Et je me souviens d'un article un petit peu provocant fait par Horsley, qui est un savant juif, qui disait « Mais les juifs ne sont pas concernés par le Messie, c'est une question chrétienne. » Alors, c'est pas tout à fait vrai, car il y a des formes de messianisme dans le monde juif, mais il y a surtout la Torah. Et ce qui est important pour le juif, c'est d'étudier la Torah. Vous connaissez cette très belle phrase de Hillel, quand Hillel résume toute la loi en disant « Toute la loi se résume en un seul commandement. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. » Il dit « Maintenant, prends, lis et étudie. » C'est l'étude de la Torah qui me fait découvrir que je suis communauté messianique. Et là-dessus, je pense que Jacques t'en dirait beaucoup plus que moi et tu pourras peut-être le dire beaucoup mieux. Donc, chez le chronique, il n'y a pas de messianisme. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas besoin. Le temple suffit. Le temple et le culte du temple, qu'il soit à la fois sacrificiel porté par les prêtres à Aaronide, ou qu'il soit de louange par les Lévites, suffit. Et l'accomplissement d'Israël se fait dans le temple. Et n'oubliez pas que le clergé du temple, ce n'est pas uniquement les sacrificateurs. Il y a aussi les chantres, les portiers et bien d'autres fonctions. C'est tous ceux qui se tiennent devant Dieu et qui représentent Israël devant Dieu. Finalement, tout homme, je dis bien, surtout s'il est mâle, en Israël peut être prêtre. Je suis moins sûr pour les femmes dans la Bible. Excusez-moi, c'est pas du machisme, c'est comme ça, c'est une époque. Mais c'est vrai que le parvis d'Israël, qui jouxte dans le temple de Salomon, le temple, l'autel du sacrifice, il est à l'intérieur de l'enceinte. Et donc tout homme en Israël a accès au sanctuaire. Les femmes, il y avait le parvis des femmes, mais séparé du parvis des hommes par la porte de Nicanor, donc elles ne rentraient pas dans le parvis des hommes. Mais le parvis des hommes jouxte le parvis des prêtres. Et donc, en potentialité, tout homme en Israël est prêtre. Le prêtre ne fait que porter devant Dieu l'ensemble d'Israël. Voilà. Et quelque part, ce n'est pas du tout le clergé, sacralisé que nous avons parfois dans la tête. Voilà. Alors ça vient du fait que nous lisons parfois, de manière très polémique, les évangiles. Mais n'oubliez pas que la réalité est plus complexe et que les évangiles ont été écrits dans des contextes polémiques et que le pharisien de l'évangile n'est pas le pharisien réel, mais le pharisien construit par l'évangile, notamment de Matthieu. Mais le pharisien réel, c'est celui qui sait qu'il n'y a qu'une seule loi, c'est celle de l'amour. Il y a un très beau texte du Talmud où on parle de 4 des 7 sortes de pharisiens et le seul authentique, c'est celui qui aime son prochain. Or là, nous sommes près de l'Évangile. Donc je rappelle toujours à mes étudiants que le vrai pharisien, c'est celui des écrits pharisiens et non pas des écrits chrétiens. Voilà, j'en ai fini.
Merci.
J'ai tenu bien
par vous. Bravo.
Merci à toi.